myself and the others too. I'm divine, we are divine. We are the elements and our power is limitless. I'm not afraid, cause I'm the love. And you should feel.
Radio G 101.5 FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les ondes de Radio G au 101.5 FM, à l'écoute de l'émission Radio Nippon. Le programme qui vous fait voyager à travers la culture japonaise, laissez-nous donc vous faire découvrir cette culture qui nous passionne au fil des récits et des rencontres, un mardi sur deux à 13h. Les circonstances d'enregistrement sont actuellement plus compliquées qu'à l'accoutumée. En effet, l'actualité du coronavirus et du confinement nous a obligés à devoir réadapter notre façon de faire les enregistrements. Nous avons donc pu réussir à enregistrer chacun chez nous pour toujours vous proposer l'émission Radio Nippon. Nous nous excusons donc d'avance des possibles difficultés sonores et de montage, mais cependant, nous avons toujours voulu être présents pour vous, chers auditeurs, afin de vous proposer notre émission vous invitant au voyage dans les terres nippones. Nous espérons donc toujours vous faire rêver à travers nos différentes chroniques et pauses musicales directement venues du pays du soleil levant. Pour ce 36e numéro de Radio Nippon, nous allons pouvoir retrouver dans un premier temps David, qui continuera Mangalu, le prix sera bientôt décerné et le coronavirus n'aura pas vaincu notre passion du manga. Nous retrouverons également Victoria pour les pauses musicales, d'ailleurs elle a souhaité nous faire partager un projet d'idol qui lui tient beaucoup à cœur. Nous retrouverons également Nicolas qui a souhaité nous parler de l'actualité avec Hanami qui se déroule toujours au Japon puisque d'ailleurs le pays est relativement épargné par le Covid-19 au jour où j'enregistre. Et enfin, je terminerai l'émission avec toujours une partie de l'histoire du Japon sur le début de l'ère des Tokugawa et l'entrée dans l'ère Edo. Mais sans plus tarder et sans transition, nous allons pouvoir retrouver David avec la chronique Mangalu, puisque bien évidemment nous n'avons pas d'actualité à vous proposer, tous les événements ayant été annulés jusque la fin du confinement. Nous essaierons de nous tenir informés, de vous tenir informés des futures actualités si jamais il y en a. Tout de suite, David.
Salut à tous, c'est David, et c'est maintenant moi qui vais reprendre la suite de l'émission avec ma petite chronique manga. Cette chronique a pour but de présenter l'événement Mangalu qui est organisé par la librairie Azumanga Angers. Et je vous parle de la sélection manga de cet événement. Chers auditeurs, si tu découvres cette chronique, je t'invite à réécouter le podcast des dernières émissions sur le site de Radio G. Petit rappel donc pour ceux qui découvrent cette chronique. Déjà, qu'est-ce que Mangalu ? C'est un prix qui est avant tout destiné aux collégiens dans le but de faire découvrir la diversité des mangas. Un comité de lecture a sélectionné 9 premiers tomes sortis entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019, adaptés aux lecteurs collégiens. Le prix est lancé depuis le 15 octobre 2019 et se terminera à la mi-mars 2020. Pour se faire, c'est simple, il faut être collégien et lire les 9 mangas sélectionnés. Ensuite, un petit bulletin de vote rapide est à remplir après chaque lecture pour donner votre avis sur chacun des mangas. Pour avoir accès à la sélection, vous pouvez vous rendre dans les collèges participants à l'opération ou au sein de certaines bibliothèques du Maine-et-Loire ou directement à la librairie Azumanga. Après la remontée de tous les bulletins de vote, nous aurons 3 lauréats pour l'année scolaire. Oui, parce que dans la sélection, il y a 3 catégories, Seinen, Shonen et Shoujo. Voilà, c'est ma dernière chronique. Aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un manga qui fait partie de la catégorie Shoujo. Et ce manga s'appelle Jardin Secret. Je vais vous faire un petit résumé de ce manga. Donc, Ran est une fille assez parfaite que beaucoup considèrent comme un modèle à suivre. Sérieuse, sportive, intelligente, soucieuse de sa santé, etc. Mais il n'est pas facile de rencontrer un garçon quand ces derniers la considèrent, à son grand dam, comme l'inaccessible étoile. Un jour, elle fait fortuitement la connaissance de Akira, un jeune garçon solaire, naturel, franc et amical, et elle découvre également son secret, qui apprécie beaucoup travailler au magasin de ses parents et sait déjà qu'il deviendra lui aussi fleuriste. Mais il n'ose l'avouer à personne de peur que l'on se moque de lui. Leur intérêt commun pour les plantes et les fleurs va les rapprocher. Voilà un peu pour le résumé. Je vais vous donner plus de détails au niveau du manga. C'est un manga dessiné par Amitsu aux éditions Kana. C'est un manga donc de catégorie shoujo, tranche de vie romance, qui est sorti au Japon en 2017. Voilà un peu pour les détails. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce manga. Donc, déjà, il faut savoir que moi, je suis pas un grand fan des shoujo en général. C'est pas forcément le type de manga que je vais lire. Mais j'essaye de les lire de manière assez neutre. Donc déjà, au niveau de petite description rapide du manga, au niveau de la couverture, donc on voit une illustration de l'héroïne Ran avec une fleur dans la main. Illustration assez simple, hein. Il y a des pétales de dessinés partout sur la couverture. Puis de couleur rose, donc direct on est dans le thème de l'amour et des fleurs. Ensuite, au niveau du graphisme, enfin au niveau du manga, des dessins. Bon, on est dans l'univers des adolescents japonais, une histoire d'amour entre deux jeunes adolescents très timides qui sont au collège et qui se découvrent. Bon, les dessins sont très précis. Les personnages sont vraiment très bien dessinés. Ce qui est sympa aussi, c'est les décors, les arrière-plans. Il y a beaucoup, beaucoup de détails. Et comme je l'avais dit dans l'émission dernière, je trouve, enfin, sur ce deuxième shoujo, ce qui est sympa, voilà, c'est de les suivre donc à travers leur vie de collégien, mais donc on voit beaucoup leur environnement, donc on se plonge dans leur quotidien et on pourrait se projeter, je pense. Je pense que ça se passe comme ça au Japon, en fait, au niveau des décors, bon, peut-être pas au niveau de l'histoire, mais voilà, on les voit dans le métro, on partage leur vie avec eux, et je trouve ça bien, on se projette bien dans le Japon, en tout cas. Pour déjà y avoir été, je reconnais certaines choses, voilà, on voit des temples, le métro, voilà, donc je trouve ça pas mal. Donc c'est aussi un manga qui est sur les fleurs, donc on apprend aussi pas mal de choses sur les fleurs. Les illustrations, les dessins de fleurs sont très bien faits. On apprend aussi des choses sur les fleurs, leur signification au Japon notamment, sur ce qu'elles veulent dire et sur ce qu'elles représentent. Donc ça c'est aussi sympa d'apprendre ça, au-delà de l'histoire d'amour, de la romance je veux dire. Voilà un peu ce que je peux vous dire au niveau de l'histoire. Bon bah au niveau de l'histoire c'est classique, hein. Comme je disais tout à l'heure, deux ados qui se tournent autour. C'est un petit peu long mais bon c'est le type qui veut ça, donc c'est du classique on va dire. Voilà un petit peu pour mon petit avis personnel sur ça. J'espère, chers auditeurs, que ça vous aura donné envie de le lire. En tout cas, bah, faites-vous votre propre avis. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis sur l'adresse mail de l'émission radionippon1@gmail.com. On arrive à la fin de cette présentation et de ces chroniques. J'espère en tout cas vraiment que ces chroniques vous ont permis de découvrir un peu plus les mangas en général, pas forcément toujours le stéréotype qu'on pourrait avoir du manga, le shonen, voilà, l'histoire pour garçons, genre Dragon Ball ou One Piece. C'était ça aussi, de faire découvrir d'autres histoires, d'autres types de mangas. Et comme je disais souvent dans ces chroniques, que vous n'étiez pas, cher auditeur des collégiens, et que grâce à nous, en tout cas, enfin, c'est ce qu'on espère, on a essayé de vous faire partager ces mangas et puis de vous donner envie de les lire, en fait. Et j'espère que c'est fait, chose faite, en tout cas. Bon, bah, en tout cas, c'était un plaisir d'avoir présenté ces mangas. Je vais laisser la suite à mes petits camarades et je vous dis à bientôt pour de prochaines chroniques et prochaines émissions. Allez, salut.
Et pour cette première pause musicale, je vais vous parler de Nanabu no Ninjuni, abrégé en Ananiji et prononcé à la française 22e, un projet d'idol ayant débuté en 2017. Grâce à l'anime, le groupe commence enfin à être connu et cela fait plaisir, notamment pour les fans de la première heure. Et oui, j'en fais partie. En effet, outre l'idée d'un groupe d'idoles comme le Japon en compte des centaines, ce projet est composé d'idoles tout ce qu'il y a de plus réel, à qui un personnage d'animé a été attribué. Déjà, on commence à sentir la particularité du groupe. Suite à des auditions en octobre 2016, les 11 membres sont ainsi choisis et débutent l'année suivante. Ce projet de Digital Seiyuu Idol permet ainsi de lier les membres à leurs personnages qu'elles incarnent grâce à des modèles 3D reproduisant leurs mouvements. Ici, qu'il s'agisse des idoles réelles ou de leurs personnages attitrés, chacune est importante et permet au projet de tirer tout son intérêt. Après 3 ans d'attente, cet hiver, un animé a enfin été produit, permettant de mieux comprendre les personnages fictifs tout en les liant à leurs idoles avec des références à la réalité, comme la date de leur premier concert. L'anime retrace tout d'abord les péripéties des 8 premiers membres et un OAV est prévu en août pour introduire les 3 derniers personnages. Il y a aussi un peu de surnaturel qui vient pimenter l'histoire et les seiyuu se débrouillent très bien dans le doublage puisqu'elles avaient déjà l'habitude de proposer des émissions de télé par exemple en modèle 3D. Vous l'aurez compris, Il s'agit là d'une nouvelle génération d'idoles existant dans notre vie quotidienne, mais aussi dans la fiction. Je vais m'arrêter là dans mes explications et vous proposer donc d'écouter l'opening de l'anime Muzui par Nanabun no Nijuni.
どこへも歩きたくない
Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio G, au 101.5 FM, à l'écoute de l'émission Radio Nippon, qui vous est proposée par l'association Soleil Levant à Angers. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet d'actualité, mais qui ne fait pas pour autant la une. Et j'espère, par ce biais, vous offrir une brève évasion pendant cette période de confinement. Le printemps nous a ouvert ses bras depuis le jour de son équinoxe, le 20 mars. Et au Japon, comme partout ailleurs, le printemps est synonyme de renouveau. Ainsi, les Japonais ont pour tradition de célébrer ce qu'ils appellent le Hanami à cette saison. Hanami signifie littéralement « contemplation des fleurs ». Sur la plus grande île de l'archipel, à savoir Honshu, les arbres fleurissent généralement entre la mi-mars et la mi-avril. Mais ce n'est pas forcément le cas dans le reste du pays. Les bourgeons commencent à éclore fin décembre dans la préfecture d'Okinawa et la floraison peut se terminer fin mai sur l'île d'Hokkaido. Il s'agit d'une tradition pluriséculaire. Il est communément admis que cette coutume ait débuté pendant l'ère dite de Nara au 8e siècle. D'abord attiré par les fleurs d'Ume, qui est pour moi un arbre entre le prunier et l'abricotier, les Japonais se sont par la suite focalisés sur les fleurs de cerisier à partir de la période Heian. Le bourgeonnement des arbres fruitiers avait, à l'origine, un côté beaucoup plus pragmatique. La floraison des cerisiers indiquait aux paysans qu'il était temps de planter le riz. Shintoïsme oblige, ils déposaient des offrandes aux pieds des arbres destinées aux divinités qui y avaient élu domicile. Une partie de ce rite consistait à consommer du saké au pied de ces arbres. Une tradition qui ne se perdra pas au fil des ans. C'est l'empereur Saga, pendant la période Heian susmentionnée, qui prit le parti de faire de ce rituel une fête de la contemplation des fleurs. L'événement avait déjà grosso modo les mêmes caractéristiques qu'aujourd'hui, si ce n'est le côté populaire. En effet, cette célébration n'était réservée exclusivement qu'aux membres de la cour impériale. Cependant, les samouraïs et les aristocrates se la sont très rapidement appropriés. Il fallut attendre la période Edo pour voir l'ensemble de la population l'adopter. Cette tradition perdure encore de nos jours. Au pays du soleil levant, il n'existe pas de ville sans son parc ou sa promenade des cerisiers. L'association des cerisiers du Japon a d'ailleurs établi une liste officielle des 100 lieux les plus réputés pour la beauté de leur sakura en fleurs. Les Japonais profitent de cette période pour s'organiser des pique-niques en famille ou entre amis sous les cerisiers. Il n'y a pas de repas traditionnel rattaché à ce moment. Cependant, les Japonais s'en donnent à cœur joie pour consommer du saké, comme l'exige la tradition, parfois même au-delà du raisonnable. Des hanami sont également célébrés hors du Japon, en Asie évidemment, mais également aux États-Unis et en Europe lors de festivals. En France, le parc des Sceaux en région parisienne est un endroit particulièrement réputé pour le fêter. Nous avons la chance, nous, amis angevins, d'avoir le plus grand jardin japonais d'Europe à moins d'une heure d'ici. Le parc de Molévrier, dont on parle régulièrement dans cette émission. J'espère bien vous y voir nombreux l'an prochain sous les cerisiers. J'en ai terminé avec ma petite chronique. Je vous laisse en compagnie de mon cher ami Xavier, qui, si je ne m'abuse, va continuer sa série de chroniques sur l'histoire du Japon. Prenez soin de vous et à dans 15 jours.
Avant de commencer ma petite chronique histoire, je souhaitais avant tout remercier tous nos chroniqueurs qui, malgré la solitude et l'isolement dû au confinement, ont réussi à se motiver et à trouver le temps nécessaire pour pouvoir faire les chroniques, faire les enregistrements et ainsi toujours vous proposer, chers auditeurs, ces petites chroniques intéressantes sur la vie japonaise. Je ne fais pas non plus exception puisque du coup, aujourd'hui, on va se retrouver pour continuer l'histoire du Japon. Je vous rappelle que nous nous étions arrêtés à l'époque de la mort d'Hideyoshi, Hideyoshi Toyotomi, en 1598. Pour mémoire, il est décédé après une campagne littéralement avortée de conquête de la Corée qui finalement fut reprise par les Chinois. Mais ce n'est pas le plus important. Revenons au Japon. Et comme à chaque fois qu'un grand homme ou un grand shogun décède, c'est tout de suite la guerre de tous pour à nouveau dominer le pays. En effet, on sort de la période Sengoku où clairement c'est la guerre de tout le monde pour essayer de prendre le pouvoir sur tout le monde. Et on venait à peine d'avoir Nobunaga et Hideyoshi qui ont réussi à recréer un état central. Mais cependant, état central relativement fragile. Une fois de plus, on n'y échappe pas à cette partie de l'histoire. Et d'autant plus que rappelons que l'héritier de Hideyoshi n'est autre que son fils, qui n'est âgé lors de sa mort que de 5 ans. Forcément, pour un shogun, 5 ans, c'est quand même un peu jeune. Mais au final, qui sont les nombreux prétendants au pouvoir? On doit surtout citer deux clans. Et c'est relativement simple. D'un côté, les loyalistes à la maison Hideyoshi, qui sont là pour protéger l'héritier Hideyoshi, Hideyori. Avec le clan qui va les aider énormément, le clan des Ishida qui a juré protection sur le jeune Hideyoshi. Et de l'autre côté, on va retrouver un ex-général de Nobunaga, tout comme le fut feu Toyotomi Hideyoshi, mais également le seul daimyo non unifié par Toyotomi, dû au souvenir de leur passé commun, Je parle bien évidemment de Tokugawa Ieyasu. Et ainsi, on en arrive à l'année 1600, où clairement tout l'avenir du pays japonais, du pays nippon, s'est décidé sur une seule et unique bataille. La fameuse bataille de Sekigahara. Ce qui est important à retenir sur cette bataille, c'est que bien qu'elle fût rude et âpre, le clan des Tokugawa finit par en ressortir vainqueur, grâce notamment à la trahison d'un des membres de l'alliance adverse. Et ce qui est également très important de retenir, c'est que durant la bataille, les principaux chefs de guerre hostiles à Tokugawa sont soit tués, soit carrément exécutés après la bataille, laissant le champ totalement libre à Tokugawa. Beaucoup considèrent même que cette bataille est le début de l'ère Edo, bien que Ieyasu ne soit nommé shogun que 3 ans plus tard. En effet, pour pouvoir arriver et devenir shogun, Tokugawa Ieyasu doit d'abord asseoir son pouvoir. Pour asseoir son pouvoir, en 1601, il confisque toutes les mines d'or, fait battre de fait sa propre monnaie, et surtout réussit à forcer toutes les villes à céder leurs privilèges. Il est ainsi nommé shogun en 1603 et atteint enfin l'ère du pouvoir pour pouvoir redresser le pays derrière un état central. Tokugawa va notamment fortifier et pérenniser l'état central qui avait été instauré par Nobunaga et développé par Hideyoshi. Mais surtout, par rapport à ses prédécesseurs, sa principale qualité va être de réussir à bien s'entourer. On peut ainsi dire que de 1603 à 1616, année de décès de Tokugawa Ieyasu, ce dernier a réussi un très grand tour de force. D'abord, il établit son bakufu à Edo, qui est l'actuel Tokyo, et qui donne ainsi le nom à l'ère Edo. Ensuite, il réussit à transmettre à son successeur un gouvernement stable, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps. Ainsi, même s'il décède, le gouvernement est stable et ne bouge pas, et il n'y a pas de nouvelles tentatives de la part de certains pour reprendre le pouvoir. Et pourquoi il laisse un gouvernement stable? Notamment grâce au siège d'Osaka en 1615, où se sont rassemblés tous les quelques rebelles qui restaient après Sekigahara. Tokugawa va réussir à faire un siège de Osaka et va réussir à tuer absolument tous ses opposants, notamment Hideyori, qui était le fils de Hideyoshi Toyotomi. Malheureusement, Tokugawa est blessé lors de ce siège et ainsi décédera une année plus tard, en 1616, laissant ainsi place à son fils, qui avait été intronisé shogun en 1605. Cependant, quand j'ai dit que Tokugawa Ieyasu a réussi à faire un tour de force, c'est que ce n'est pas la seule chose qu'il a réussi à transmettre. Il n'a pas réussi à transmettre qu'un gouvernement stable. Il a aussi réussi, durant ce petit court laps de temps de 13 années, a réussi à renouer les relations amicales avec la Chine de Qing, alors que pour rappel, Hideyoshi Toyotomi, qui avait tenté d'envahir la Corée, s'était mis les Chinois à dos, qui ont récupéré toute la Corée. Autre point important, Tokugawa Ieyasu a réussi à améliorer toute la flotte commerciale grâce à un Anglais qu'il a recueilli après un naufrage. Quand je disais qu'il arrivait à bien s'entourer, c'est qu'il a vraiment réussi à bien s'entourer. L'autre chose, c'est que pour l'époque Edo, il réussit à instaurer tout un système sociétal basé sur des préceptes confucéens. Il réussit à s'entourer d'un célèbre confucéen qui n'est d'autre que Hayashi Razan, qui l'aide à développer son modèle sociétal qui sera utilisé durant toute l'ère Edo. Et l'autre point très important, c'est que l'ère Edo fut une ère de paix, de prospérité économique, grâce aux relations fructueuses que Tokugawa Ieyasu aura réussi à nouer avec le sud de l'Asie et l'Europe, sans pour autant se faire envahir par les chrétiens européens, puisqu'il réussit à interdire les constructions d'églises sans pour autant persécuter les chrétiens. Comme je le disais, s'ensuit ainsi l'ère Edo, une ère de paix, une ère de prospérité économique, mais cependant une ère de repli sur le Japon. Nous verrons cela lors d'une prochaine émission. Sur ce, je vous souhaite à tous, chers amis auditeurs, un bon courage pour le futur confinement que nous allons avoir, et je vous laisse entre de bonnes mains, puisque Victoria a quelque chose à vous faire partager.
Vous êtes toujours sur Radio G au 101.5 dans l'émission Radio Nippon. Et pour finir l'émission d'aujourd'hui, je vais vous parler de Popping Party, un groupe issu de la franchise Bang Dream, jeu sur mobile et animé ayant débuté tous deux en 2017. comme les nombreux animés de musique qui ont vu le jour ces dernières années, les seiyuu, terme japonais pour désigner les doubleurs, assurent aussi de vrais concerts où elles jouent l'instrument de leur personnage et reproduisent ainsi dans la vie réelle les musiques qui nous enchantent dans l'animé. De retour pour une troisième saison cet hiver, les membres de Popping Party vont tenter de participer et gagner le Bang Dream, concours proposant une finale au Budokan, rêve de tout groupe japonais. Je vous propose donc d'écouter l'opening de cette nouvelle saison sans plus tarder, Initial par Popping Party. Sur ce, bonne écoute et à dans deux semaines, même lieu, même heure, sur Radio Nippon.
Ajit! 日私は少女でも大人でもなく混じり気のない眼差しで夢だけ見てた。
Radio G